Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Marie Da Silva à l'occasion de la parution de son ouvrage « Survivre au taf » aux éditions Daronne. Il y a, dans ce livre, le récit de 9 accompagnements, 9 personnes qui ont décidé d'agir pour survivre. Il y a dans ces récits une immense souffrance sociale, conséquence directe d'une multitude d'oppressions créées par le système dominant patriarcal, capitaliste, blanc, écœurant. Avec le coaching de Marie Da Silva, les personnes minorisées retrouvent leur existence, retrouvent leur place, mangées par une blanchité toxique. On y va ? C'est parti ! Ce soir, je reçois donc Marie Da Silva. Bonjour Marie.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir à la librairie. Ton livre fracassant et d'une importance incroyable, je trouve. Je l'ai lu, dévoré même, je l'ai stabiloté, souligné, j'ai relu des passages. Je me suis dit qu'il était vraiment indispensable.
Merci beaucoup.
Merci pour ça. Donc ce livre, ce fameux, c'est « Survivre au taf, stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées ». C'est édité par Daronne, une maison d'édition que l'on aime particulièrement.
C'est la meilleure.
Évidemment. Pour commencer un petit peu cette aventure, on va peut-être pas directement aller sur le livre, si tu nous le permets, parce que en même temps, le livre commence aussi par ton expérience. À partir de quel moment tu t'es rendu compte, en fait, que tu avais besoin de te coacher toi-même, parce que c'est un peu ça. Tu t'es, à un moment donné, dit qu'il fallait que ton histoire, en fait, prenne un autre tournant. Et donc, tu t'es... Alors,
en fait, c'est le moment où on comprend que la colère, en fait, c'est une hormone, c'est une émotion de l'action et que ça peut pas être un horizon. Et c'est à partir d'un moment où je me suis dit, mais putain, mais t'es tellement en colère, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette colère? Et en fait, je l'ai pris comme un call to action, comme un appel à agir. Et forcément, agir dans quel sens, agir dans quel horizon, et c'est cette réflexion sur ma colère qui a précédé en fait tout le travail que j'ai dû faire ensuite sur moi, sur ce que j'avais vécu et comment j'allais le retransmettre aux autres.
Mais c'est ça, parce que c'est pas donné à tout le monde en fait de faire le bouton reset un petit peu, de se dire je vais regarder ma vie et ce qu'elle a donné en fait jusqu'ici, de voir tous les endroits qui me sont pas ok, où ça va pas en fait, je veux pas continuer à vivre comme ça et donc je vais changer. Là c'est quand même un mouvement, enfin en tout cas moi que je trouve assez impressionnant de se dire après, même si on a tous et toutes sans doute à un moment donné de nos vies des choses qui vont plus ou on a envie de changer tout simplement le cours de notre vie, ici t'as quand même été face à quelque chose d'assez énorme qui sont les oppressions, qui sont les inégalités, les discriminations, donc des choses qui te sont non pas tombées dessus comme si c'était soudain, c'est quelque chose de constant pendant longtemps, en fait toute ta vie a été construite au fur et à mesure autour de ça, et donc j'imagine, enfin en tout cas moi je trouve c'est assez impressionnant en fait de se dire là je regarde en arrière et je dis stop en fait et je construis ma vie autrement.
Alors j'ai pu dire stop parce que j'ai la chance d'avoir un super support système qui s'appelle les Da Silva et que ma famille en fait a été un élément clé de ce reset. J'ai pu m'arrêter parce que derrière en fait j'avais des sœurs qui m'ont dit bah en fait pendant que tu t'arrêtes nous on va te prendre en charge financièrement. Pendant que tu t'arrêtes, quand ce sera trop dur, et ben en fait, on pourra t'aider pour ton fils, etc. Donc c'est, j'ai pu m'arrêter parce que j'avais un très bon support système, et je pense que la majorité des personnes n'ont pas ça, parce que d'habitude en fait, on part d'une expérience A, on souffre en A, et puis ensuite on va en B, et puis en C, sans jamais pouvoir s'arrêter. Et donc du coup, le temps qu'il nous faudrait en fait pour panser nos plaies et transformer en fait ces expériences d'oppression et de douleur en savoir nous manque. Et en fait la différence entre le public et moi, c'est que à un moment donné moi j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de m'arrêter. J'ai pu m'arrêter alors que la plupart des gens ne le peuvent pas.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de je décide, mais j'ai la chance en effet d'avoir ce système qui m'accompagne et qui heureusement est bien différent du système dont on va. Non mais j'arrête. Enfin aujourd'hui, à chaque fois que j'ai dit le mot système, j'avais une sorte de crispation de me dire, mais en fait je déteste ce mot parce que je pense que la première fois où je l'ai lu avec CIS, c'était Juliette Drouard qui le notait, et donc maintenant dès que je le dis, ayant une sorte de mémoire visuelle, j'ai ce mot qui m'apparaît et il y a quelque chose d'assez effroyable. En fait, je me dis oui vraiment, on est vraiment entouré. Enfin bon, je vais essayer de déconstruire ça parce que c'est c'est pas viable. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans la construction de ton livre, c'est que de ce fait, tu fais état de ton expérience d'abord, d'où je parle. Et cette question-là de d'où je parle, ça a été hyper important dans les questions féministes, dans la mesure où ça a permis de parler et d'inclusivité et d'intersectionnalité. Est-ce que, quand tu as débuté en fait l'expérience de ton livre, tu t'es dit directement, il faut que je puisse me situer pour que on fasse confiance aussi, que les personnes qui vivent les oppressions comme tu as pu les vivre savent qu'elles étaient entre des mains sœurs, entre des mains affectionnantes. Enfin, en tout cas, tu vois quelque chose de vrai et de confiance, en fait, et non pas de la réappropriation comme on en voit quand même malheureusement beaucoup aussi.
En fait, c'est une question intéressante que tu poses parce que je suis pas du tout partie sur ça.
D'accord.
Au début, j'étais en mode quand même, je suis coach et experte, alors là. Et donc, je suis partie sur un livre qui allait être un petit peu mode d'emploi. Genre, il t'arrive ça, il faut faire ça. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je l'écrivais, ça ne marchait pas du tout. Je trouvais que ça n'avait pas d'épaisseur, ça n'avait pas de... Et là, je me suis dit, bah en fait, il va me falloir un peu de courage. Et c'est ce courage qui me manquait. Et j'avais peur d'écrire sur moi. Parce que tu sais, quand on est dans une profession un peu aidante, quand on est coach, quand on est psy, quand on est accompagnant ou personne aidante, bah en fait, on parle pas forcément de nous, en fait. C'est un exercice qu'on fait rarement. Et là, j'ai eu besoin de parler de moi parce que je pouvais pas m'effacer de cette histoire dans le sens où tout est parti de mon histoire. Tout est parti de ce qui m'était arrivé, de comment je l'ai théorisé et de comment je le transmets aujourd'hui à travers mon activité de coach. Donc, même si je voulais pas y passer, je devais y passer, en fait. Et c'est vrai que le d'où je parle est hyper important. J'avais besoin qu'on sache que j'étais noire, j'avais besoin qu'on sache que j'étais femme, que j'étais grosse, que j'étais... précaire, que je venais d'un milieu immigré, ouvrier. J'avais vraiment besoin qu'on le sache. Et surtout, il y avait ce truc de se dire, si je ne le dis pas, on va me mystifier. Et ça va être vraiment le contraire de ce que je veux faire. Parce que ce que je voulais dire, c'est que l'autodéfense est à portée de tous et de toutes.
Oui, et c'est comme ça que, de ce fait, après ta présentation... Ça y est, on rentre, on va dire, dans le vif de tes pépites,
ouais.
Puisque c'est comme ça que tu appelles les personnes que tu as pu accompagner et dont tu prends le portrait. Donc on a, si j'ai bien compté, 9 portraits,
ouais,
de personnes différentes, mais qui sont en effet à un, alors j'allais dire un carrefour, mais à un endroit en fait de plusieurs oppressions. Merci. J'étais en train de regarder mes notes en me disant mais où est ce terme ? On a l'intersection différentes oppressions. Et malgré en fait le fait qu'on aille vers la lecture de ces portraits-là, tu te positionnes d'abord sur ce que ça t'a apporté, cette rencontre, sur les choses en fait qui ont tout de suite fait sens, les choses qui t'ont questionné. Et dans notre lecture, de ce fait, il y a quelque chose de, en effet, très empathique dans la découverte de ces personnes, de se dire voilà, l'état dans lequel elles t'ont contacté n'est pas anodin. Quand il y a une femme qui t'appelle, elle a 45 minutes pour régler un souci, pour la préparer en fait à régler un souci. Ben, nous, on est dans quelque chose de la lecture vive, quoi. On se dit, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il y aura assez de temps, etc.
Ah, mais je me pose les mêmes questions.
Mais oui, mais j'imagine. D'où ma question. Comment, en fait, quel a été le travail pour toi de rendre compte, en fait, de cette situation qui paraît tellement, qui ne paraît pas, mais qui est tellement sincère, en fait, de nous présenter ces portraits, ces pépites, avec tous les enjeux, en fait, nous permettant vraiment de comprendre quel que soit notre endroit, que ce soit moi, femme blanche, classe moyenne, voilà, qu'une personne opprimée elle-même, on comprend tout, en fait, j'ai l'impression. Tu nous amènes vraiment vers cette pépite avec toute la construction dont on a besoin.
Alors oui, bah, en fait, c'est là que je vois qu'en fait, le livre terminé, il est tellement différent de ce que je voulais faire au début. Au début, c'était vraiment un truc... je voulais faire un truc vraiment très pragmatique et en fait, je me suis rendu compte que non, au-delà du fait discriminatoire, au-delà de l'oppression, il y a aussi les émotions qui les accompagnent. Et je pense que ce livre, en fait, il est venu quelque part raconter nos mondes intérieurs. quel est le monde intérieur d'une personne oppressée en permanence? Quel est le monde intérieur d'une personne qui subit telle ou telle chose? Pas parce qu'elle a fait, mais juste parce qu'elle existe. Et je pense que c'est ça que j'avais envie de retranscrire. J'avais enfin, les émotions, en fait, elles prennent énormément de place dans ce livre. Et j'ai l'impression que l'importance des émotions dans ce livre, elle est aussi proportionnelle aux émotions que nous provoquent les oppressions dans la vie réelle aussi.
Ah, mais c'est sûr que, en tout cas, moi, en tant que personne blanche, quand je lis ce livre, il y a quelque chose du malaise extrême, en fait, mais qui est nécessaire. En fait, on a besoin, et c'est pour ça que je te disais qu'il faut que ce livre, il soit lu par tous et toutes, quel que soit, en fait, l'endroit dont on parle, parce que ça permet peut-être d'être vraiment dans quelque chose du ressenti. Et une fois qu'on touche les émotions, moi, j'ai toujours l'impression qu'on fait déjà un petit pas plus rapide, en tout cas, que juste de la théorie. Et là, je pouvais pas, en effet, m'empêcher de penser et de dire qu'en tant que, même si je suis femme et que c'est déjà une certaine oppression, en fait, je suis une femme blanche. Et donc, est-ce que j'ai opprimé? Est-ce que, dans mon contexte familial, je suis chef d'entreprise, pas familiale, d'entreprise, de travail, je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, etc. Est-ce que j'ai été à cet endroit-là, en fait, quand tu, une de tes pépites parle de son rapport avec les RH, avec ça plus un ou je sais plus qui dans l'entreprise, mais qui est juste odieuse. Et en fait, il y a quelque chose de oh là 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 là, il faut, mais qui est nécessaire en fait, de se questionner soi-même sur ses comportements, sans évidemment, là je ne dis pas que je prends toute la couverture à moi, mais c'est important en fait aussi de questionner l'autre côté, parce que là c'est à destination des personnes minorisées, mais j'espère que beaucoup de personnes blanches vont le lire aussi en fait, ce livre.
Oui, mais après c'était pas mon ambition première, c'est-à-dire que moi quand j'écris ce livre, j'écris pour les personnes racisées. Évidemment. Et elles sont au centre de ma réflexion. Par exemple, je pense que ce livre, il aurait pas eu peut-être la même force, la même radicalité si j'avais pensé aux personnes blanches. Si j'avais pensé aux personnes blanches en l'écrivant, je pense que j'aurais beaucoup euphémisé et j'aurais fait en fait ce qu'on fait beaucoup en tant que personne racisée, c'est-à-dire que je me serais retrouvée avec un livre qui prend soin de leurs sentiments. Et or, c'était vraiment pas le but. Le but, c'était vraiment de prendre les personnes racisées et de dire, bah voilà, voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on ressent. Et aussi dire, je te crois. Et je pense que je l'ai dit à travers tout le livre. À chaque fois, je dis, je te crois. Ce que tu vis, c'est réel. Ce que tu vis, c'est valide. Et en fait, mon tu et mon nous dans le livre, il est communautaire, au sens le plus strict du terme, parce que j'estime que en tant que personne noire, je partage aussi cette espèce de communauté de destin avec d'autres personnes racisées, parce que on connaît le racisme en fait dans notre chair, et on est en fait dans cette espèce de continuum en fait qui impacte nos vies, comme dirait Siam Asbag, du berceau à la tombe. Donc c'était important en fait de n'avoir que cette vision communautaire en tête.
On la ressent bien en fait. Je veux dire, il y a quelque chose de très porté en fait. Tu accompagnes tout ce livre, on sent, et évidemment ton coaching, mais on sent que par le livre, il y a cette notion là en fait d'accompagnement qui est très forte. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, donc toute ta première partie concerne cette intersection des oppressions, et un des chemins en fait que l'on a de portrait en portrait, c'est cette non connaissance, ou en tout cas, je sais pas si on peut aller jusqu'à non-connaissance, mais j'ai eu l'impression de lire qu'en fait, même si les oppressions, les discriminations, c'est quelque chose dont on parle, dont on a entendu parler, etc., qu'une personne racisée, opprimée, ne le prenait pas forcément pour elle directement. C'est-à-dire, quand au travail, il se passe des choses systématiques et que ça n'arrête pas, etc., il va falloir un temps ou peut-être un regard extérieur pour aider, en fait, cette personne, donc la pépite, à voir qu'elle fait partie d'un système d'oppression, et que tout cet acharnement, ce harcèlement, ce n'est pas uniquement fait de sa personne, mais c'est de la personne qu'elle représente.
Oui, en fait, mon travail, c'est aussi de contextualiser les choses qui se sont passées, par exemple. C'est-à-dire que si je coach une personne qui se fait harceler de manière raciste, souvent, je vais entendre, bah, tout est de ma faute, si j'avais pas fait ça, et si j'avais pas fait ci, bah, peut-être qu'il se serait pas passé ce qui s'est passé. Moi, mon travail, en fait, ça va être de remettre, en fait, ce harcèlement dans un contexte bien défini. C'est important de contextualiser. Et c'est important, en fait, que la victime de harcèlement, en fait, commence un dialogue honnête avec elle-même. Et qu'elle partage mieux la responsabilité. Et quand on partage bien les responsabilités dans un cas de harcèlement, on se rend compte qu'il est unilatéral. C'est 100% la faute de la personne qui a harcelé. C'est ça, bien définir les responsabilités dans un cas de harcèlement. Et aussi, ce qui m'importe dans un coaching, c'est de vraiment faire prendre conscience à la personne que quelque part, souvent, ce n'est pas elle le problème. C'est-à-dire que moi, dans ma carrière, ça s'est mal passé dans plusieurs expériences professionnelles. Ça veut tout simplement dire que c'est systémique aussi. Si par exemple une femme subit par exemple plusieurs incidents sexistes durant sa carrière, c'est pas parce qu'elle est, c'est parce que le sexisme est systémique, comme le racisme, comme le validisme, etc.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est très très fort, c'est de se rendre compte que de pépite en pépite, en fait, il y a des choses communes, que même si leurs points d'oppression sont variés, parce que malheureusement, et en plus ça additionne, mais à chaque fois, en fait, chaque présentation de la pépite, tu vas noter, alors si je prends ici par exemple Vincent, tu as en dessous une petite phrase, adresser ses traumas, prépa, définir sa valeur. Et ensuite, on va avoir, bon, c'était pas le meilleur exemple pour les oppressions, voilà, tu orale, grossophobie, négrophobie, méthode, raconter. Enfin, je le dis en raconter, mais c'est avec des petits points entre chaque lettre. Et donc, on a vraiment une sorte... quand on lit, en fait, ce portrait, de ce fait, on sait d'avance déjà ce qu'on va rencontrer comme thématique, ouais. Ce qui peut être, je pense, assez important pour les personnes opprimées, en fait, de se rendre compte que, attention, on va parler de ces thématiques-là aussi, parce que j'imagine que quand on subit du harcèlement, de lire sur le harcèlement, il faut qu'il y ait le bon moment, en fait. On n'est peut-être pas capable de lire là-dessus immédiatement.
Exactement. Puis ça rejoint aussi la question que tu me poses précédemment, c'est-à-dire que il y a tout un travail de faire prendre conscience. Pourquoi ? Parce que le déni, c'est aussi une stratégie. C'est-à-dire que on ne voit pas jusqu'à ce qu'on soit capable de voir. On ne voit pas jusqu'à ce qu'on ait la force. Donc le déni, en fait, c'est aussi une stratégie qu'on a dû mettre en place pour survivre.
Dans les méthodes d'approche des pépites, tu as quelques rendez-vous en présentiel.
Ouais.
Tu as pas mal de rendez-vous aussi par téléphone.
Oui.
Je crois qu'il y en a aussi par Zoom. Ou...
Oui.
Mais en tout cas, la façon en fait dont tu rencontres ces personnes, c'est très divers et varié.
Ouais.
Ça demande quelque chose de très... Enfin, ça demande une adaptation constante quand même dans l'approche, parce que même si dans les thématiques, dans leur histoire racontée, tu peux, j'imagine, enfin, moi j'imagine une sorte de machine dans ta tête qui fait les alors là, ça va être cette méthode-là, enfin, tu vois, à partir du discours qu'ils te donnent, mais le comportement aussi physique est important, non ? Je me disais, par téléphone, ça devait être, il doit y avoir une dimension qui manque parfois.
Bah en fait le bon, déjà le souci c'est que j'ai des personnes qui j'ai des personnes dans toute l'Europe.
Mais oui.
Hier je parlais avec une pépite qui habite au Japon. Donc en fait bien sûr je vais me servir du téléphone, donc je fais du coaching aussi à distance. Et puis aussi je m'adapte à la personne. Il y a des personnes par exemple pour qui c'est compliqué de se déplacer. Si la personne me dit Marie, moi je suis agoraphobe, on va pas se voir. OK, on va s'appeler. Marie, moi, ça a trop me stresser de te voir en face à face, donc je préfère le téléphone. Bah, écoute, il n'y a pas de souci, on va faire le téléphone. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne et de tirer le meilleur des conditions qu'elle me demande.
Ok.
Parce que c'est au final, c'est les personnes que je coach qui vont poser leurs conditions.
Oui, c'est ça, il faut qu'elle soit à l'aise à 100%.
Exactement.
Et que de ce fait, toi, tu t'adaptes à partir de ces possibilités-là.
Exactement.
Et je me souviens d'un des portraits où la femme, il est question d'une tenue, il est question d'une façon d'être. Et là, j'imagine que le fait de recevoir une photo, il me semble que tu reçois une photo de sa tenue.
Oui.
Ça doit être un moment de ce fait assez fort.
Ça, c'est un truc un peu marrant où je dis c'est le jour de la confrontation, tu vas t'habiller comment ? Bah oui.
Mais ouais.
Envoie-moi une photo.
Mais c'est hyper important, en fait, tout ça. Puisque là, même si je trouve que ta méthode de coaching peut être adaptée en dehors du monde du travail, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être adaptées au relationnel, enfin à la famille même, etc. Mais là, typiquement, en fait, c'est sur le monde du travail. Et donc, l'apparence, la façon dont on se présente aux entretiens d'embauche, où on parle, en fait, à sa direction, à la hiérarchie, aux collègues, etc. Tout ça, en fait, ça a des enjeux qui sont très, très importants. Pourquoi ? D'abord, est-ce que tu n'interviens dans ton coaching que sur le milieu du travail ou c'était uniquement pour ce livre ?
Ah non, c'est que sur le milieu du travail.
Ok.
Que sur le milieu du travail, parce que après, je trouvais qu'il était facile en fait de tomber dans quelque chose dans lequel je n'aurais pas été spécialisée ou je me sentais pas en tout cas spécialisée. C'est-à-dire que en fait, moi, à chaque fois que je coach une personne, en fait, souvent, je lui conseille d'allier une thérapie à côté. Parce que en fait, il y a des sujets que je ne vais pas traiter, il y a des sujets que je ne peux pas traiter et que je ne suis pas qualifiée. Il y a des choses en fait où je dis bah voilà, là, il y a un trauma qui est beaucoup plus profond que celui du travail. Là, il va falloir accompagner ce qu'on se dit d'une parole thérapeutique. C'est pour ça que je travaille en collaboration avec des psys d'ailleurs,
le plus souvent.
Tu parlais aussi de la tenue. La tenue, ça fait partie de la mise en scène, puisqu'en fait, on considère que le travail est un théâtre social. Et qu'il faut s'habiller pour son rôle en fait. C'est important en fait de convoquer en fait tous les éléments qui vont nous permettre en fait d'avoir cette confiance, qu'elle soit mimée, feinte ou pas d'ailleurs.
Oui, j'ai lu, j'ai sorti quelques petites phrases comme ça et j'ai lu donc le coaching, c'était créer des stratégies d'existence. C'est super beau. Existence, pour moi, enfin, il y a quelque chose de très important en fait dans ce terme, puisque c'est ce que tu leur Alors j'allais dire tu leur rends, mais c'est pas exactement ça. C'est ce que tu leur infuses en fait. Tu leur donnes les pistes pour que eux-mêmes, que ces pépites trouvent leur façon d'exister par elles-mêmes. Et ça c'est assez beau en fait de rendre non pas une confiance en soi parce que tu en parles beaucoup là-dessus, mais juste de les amener à tout simplement exister. C'est quand même, enfin, ça paraît simple et en même temps c'est de dire à quel point les oppressions rabaissent le niveau de vie en fait, mais dans le sens moi j'imagine les jeux vidéo où il y a les points de vie comme ça, ouais. Et les oppressions elles baissent et à un moment donné en fait quand il y a plus de points de vie, il y a plus de vitalité du
c'est
tout.
Fini.
C'est fini.
Donc oui, le coaching c'est effectivement recréer des conditions d'existence, se rappeler qu'on existe. Et pourquoi ? Parce que la discrimination, l'oppression, c'est le fait de poser de manière arbitraire la difficulté d'exister sur un certain groupe donné. Une personne noire, une personne asiatique, une personne maghrébine, en France, elle a une difficulté à exister. Elle a une difficulté à acquérir simplement des choses. On lui retire ses droits, on lui dénie ses droits de manière presque permanente. Donc, exister, c'est aussi, dans notre cas précis, c'est se défendre. C'est-à-dire que je pouvais pas parler d'empowerment dans ce livre si je parlais pas d'autodéfense, en fait. C'est un empowerment de combat. En fait, c'est un empowerment qui nous oblige à nous mettre au centre. Donc, ça veut dire qu'on va contre notre socialisation, puisqu'on a été socialisé à ne pas nous mettre au centre. On a été socialisé à nous taire. On a été socialisé à taire notre instinct de survie. On a été socialisé à taire nos colères. Donc l'idée, c'est que ce coaching en fait fasse émerger toutes les choses en fait qu'on est obligé de taire pour survivre dans certaines situations. Et aussi, j'ajouterais que j'ai pas de problème avec le silence. Le silence est aussi une stratégie, mais comme toute stratégie, c'est une stratégie qui à un moment donné fonctionne et puis qui à un moment donné ne fonctionne plus. Donc on doit en changer.
Oui, et qui est pensée. Et oui. C'est là où, en fait, le fait de lier ces stratégies d'existence au milieu du travail, qui est ce milieu très écrasant, parce que quand on est employé, salarié, ben on doit suivre les ordres, on doit obéir pour juste garder son poste, en fait. Il y a cette terreur de le perdre, parce que malgré tout, on sent bien, en fait, chez ces pépites, que le fait d'avoir un travail... Rien que d'avoir un travail, c'est compliqué malgré les diplômes, malgré les recommandations, malgré toutes les possibilités et la grandeur possible. Leurs différents endroits d'oppression font qu'il y a cette peur constante de perdre ce travail puisque la compétence ne suffit pas.
Non, la compétence ne suffit pas parce que si elle suffisait, honnêtement, tous nos problèmes seraient réglés, je ferais même pas ce métier. La compétence ne suffit pas. La compétence, en fait, en tout cas, quand c'est une personne racisée qui est compétente, elle doit accompagner cette compétence du silence. C'est-à-dire que une personne racisée qui sait ce qu'elle vaut, une personne racisée qui connaît son potentiel devient alors un ennemi du système et le rappel à l'ordre tombe extrêmement vite. Toutes les personnes en fait que j'ai coachées dans ce livre sont brillantissimes, sont d'une compétence folle, mais elles ont subi en fait des rappels à l'ordre quand elles ont voulu faire valoir ces compétences. Il y a pas longtemps, en fait, je coachais une personne, en fait, qui a commencé à se faire harceler parce qu'elle a demandé une augmentation. Elle portait le service, elle portait littéralement le service sur ses épaules. Et puis quand elle a demandé une augmentation, on lui a dit ah mais en fait t'es pas si bonne que ça. Alors que le service tournait grâce à elle, en fait. Et ça c'est tous les jours ça.
Ouais, c'était bataille constante.
Constante.
Et des termes que tu emploies dans le livre qui m'ont beaucoup touchée. Tu parles d'élever, d'augmenter les personnes. Ce principe-là, tu peux nous en parler parce que j'ai trouvé ça mais vraiment très beau en fait, le fait de permettre aux gens de s'augmenter.
Oui, je parle d'augmentation parce que c'est une contre-réflexion par rapport, tu sais, à la phrase ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Et moi, j'ai dit bah en fait non.
Ouais, c'est ça.
Parce que honnêtement, ces épreuves, j'en avais pas besoin. Mais vraiment, de tout mon cœur, j'en avais pas besoin. Personne, moi, je suis pas un soldat. Je n'avais pas besoin de ces épreuves. Et donc l'idée c'était de dire que le trauma quelque part nous diminuait, c'est-à-dire que quand on est traumatisé par une situation donnée, on n'est plus la même personne. Et à un moment donné, quand on se regarde dans ce miroir, on dit mais qu'est-ce que je vais faire de cette personne diminuée ? Et moi je dis que cette personne diminuée par le trauma, diminuée par le harcèlement, le racisme et d'autres oppressions, cette personne-là en fait on va l'augmenter. Et j'y crois vraiment en fait, c'est-à-dire que on peut s'augmenter à partir d'une situation donnée. Et l'idée c'est de vraiment, il y a des cas que j'ai pas racontés dans le livre, mais il y a des cas où on partait vraiment de situations extrêmement tendues, qui étaient quasi de vie ou de mort. Quand par exemple une personne te dit bah écoute, moi j'ai développé une arythmie du cœur parce que je me fais harceler, ou une personne te dit bah en fait je commence à développer un ulcère et qui devient de plus en plus grave, on est dans la vie ou la mort en fait. Ces oppressions là en fait elles ont un horizon qui est la mort. La discrimination, elle a un horizon qui est la mort aussi. La discrimination, c'est le but de détruire en fait des populations données.
Oui, et c'est tout en fait le projet du système dominant. Enfin, évidemment, c'est pas noté comme ça aussi clairement, mais si en fait, quand on à force en fait de comprendre ce système dominant capitaliste, oppressif, validiste, etc., on sent bien en fait que le projet n'est pas que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde s'augmente comme tu le dis, ou que se sente bien en fait dans son milieu de travail. C'est de toujours mettre dans la compétition, de mettre des bâtons dans les roues en fait, de le plus vite possible aux personnes qui ressemblent pas au modèle donné, qui ne sont pas le modèle donné.
Et ça se vérifie encore plus sur la question du validisme, par exemple. Le validisme en fait c'est un acte de la société d'oubli. C'est un acte d'oubli. C'est-à-dire que on considère dans une société donnée que les personnes handicapées ne font pas partie du projet de société. Et il y a quelque chose d'encore plus absurde. Non seulement les personnes handicapées ne font pas partie du projet de société, mais elles vont avoir la charge de se rappeler à la société. Et quand elles vont se rappeler à la société par des demandes d'aménagement ou par des protestations sur leurs conditions d'existence, elles vont se faire rappeler à l'ordre.
Oui, et nier aussi, nier dans la résultante. C'est-à-dire quand ta pépite demande en fait s'ils ont pensé à elle pendant un voyage organisé, ou je crois que c'est ça, hein, et que là il y a une sorte de blanc total, se dire ah zut, non, il y a quelque chose d'une énorme violence en fait de pour cette personne-là. Puisqu'on est sur cet exemple du validisme, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter pour qu'on puisse donner un exemple en fait très très concret de quel était de ce fait ton conseil dans le cheminement, parce que ça faisait partie de ce fait de ton conseil de coaching, de dire ben en fait il faut verbaliser les attentes, mais c'est encore d'une certaine manière c'est donc à la pépite d'aller vers l'oppresseur.
En fait, moi, je pars du principe que... allez, on est entre nous, on va se le dire. Franchement, les oppresseurs sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réfléchir. Mais on l'oblige de réfléchir pour eux.
Mais.
Parce qu'en fait, un oppresseur, quel qu'il soit, il a été conditionné à ignorer la moitié du monde. Donc, il est là, il comprend rien. Donc, on est obligé de verbaliser pour qu'il n'ait pas le choix de dire « je n'ai pas compris » ou « je n'ai pas vu ». Et l'idée, par exemple, dans le coaching d'Emmanuel, qui est une personne malvoyante, c'était de verbaliser ses besoins parce qu'elle portait ce que j'appelle en fait le masque valide. C'est-à-dire que il y a eu cette réunion où on lui file trois tableaux Excel en super petit à décortiquer pour le lendemain. Et en fait, pendant qu'on faisait le coaching, je lui disais « mais tu vas le faire ça ?» En sachant que si tu te poses sur ce tableau Excel avec ce que tu as, en fait, c'est 3 jours de migraine ophtalmique. Est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que ce travail-là vaut la peine que tu sois 3 jours dans un état pas possible? Et en fait, ça a été un vrai débat avec elle. Parce qu'elle, elle me dit, mais Marie, si on me le donne, c'est que je dois le faire. Je dis, est-ce que je vais te rejoindre à mi-chemin? Est-ce qu'on peut faire un pas de côté? Est-ce que tu peux dire, voilà, moi, quand vous me donnez tel document dans telle proportion ou tel document sous telle forme, je ne peux pas le traiter. Et en fait, on a fait un truc, c'est-à-dire que les oppresseurs ont un ego. Donc, on a fait un truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne en réunion produisait un document adapté qu'elle pouvait lire, elle le félicitait devant tout le monde. Mmh. Et tout le monde courait après son petit bonbon, son petit point. Et donc, du coup, ça a amélioré, en fait, la qualité de ces réunions. Parce qu'en fait, on le mettait en scène, ça. Oh, merci Jean-Michel pour ce tableau si bien produit que je peux consulter. Et puis, tout le monde, après, voulait, voulait suivre Jean-Michel, quoi.
Mais c'est hyper brillant.
On distribuait des bons points.
Mais ouais. Voilà. Et, ça vient flatter, quoi.
Et le soir, on s'appelait, je disais, alors. Oh là là, ils ont mordu. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle a réussi, en fait, à, sans faire de grands discours sur voilà comment m'inclure. Bah, en fait, on a joué comme ça aussi avec leur ego. On a joué avec leur ego. On a joué avec, quelque part, leur envie de bons points. Et moi, le but de mon coaching avec Emmanuel, c'est qu'elle enlève ce masque valide. Parce que, in fine, le fait d'essayer de se transformer en personne valide avait de vraies conséquences sur sa santé et mentale et physique. Et elle a vraiment compris quand je lui ai dit que, voilà, quand tu mets ton masque valide, non seulement tu crois t'augmenter, mais en fait, tu te diminues. Parce que si tu consultes ce tableau Excel, si tu te mets sur ce tableau Excel, ça va te prendre déjà 4 fois plus de temps que tout le monde. Et puis ensuite, c'est 3 jours de migraines incessantes qui vont suivre. Et pendant ces 3 jours, là où tu devrais produire, tu vas pas pouvoir produire. Donc ça veut dire que c'est même contre-productif. Même si on pense de manière uniquement capitaliste et productiviste, c'est contre-productif. Alors que si tu demandes des aménagements, bah là, tu crées les conditions de ta propre excellence. C'est ça, en fait, l'idée. Et l'idée, c'était de décoloniser, en fait, sa notion d'excellence. Pour elle, par exemple, la notion d'excellence, c'était d'imiter de manière parfaite une personne valide. Alors que moi, je disais, non, les conditions où tu vas être excellente, ce sont des conditions qui t'appartiennent. Et ce sera plus à toi de t'adapter.
C'est ça. Mais c'est parce que tout repose... Enfin, j'imagine que ce comportement qu'elle a, du masque blanc, il est aussi construit parce qu'on voit tellement les handicaps comme des défauts, comme c'est ce que tu notes, hein, comme quelque chose de hors norme, de pas normal, de que en fait, j'imagine que c'est une façon de se protéger que de se construire autrement, en fait, de se dire mais non, en fait, je vais me réaménager pour que ça passe inaperçu. En fait, je vais combler tout ce que je peux faire, quoi.
Ça peut être le masque, tu disais le masque blanc, mais le masque blanc, le masque valide, le masque, par exemple, moi, dans le livre, en fait, je coach une personne qui subit, en fait, la grossophobie. Et il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la grossophobie. Par exemple, si moi, en tant que personne grosse, j'arrive dans un espace, et que je dis pas dans les 15 minutes que je sais que je suis grosse et que je dois faire un régime, mais c'est la fin des haricots. C'est-à-dire que je suis obligée de montrer aux gens que je ne m'accepte pas pour qu'ils puissent m'accepter quelque part. Oh, elle sait qu'elle est grosse, elle sait que c'est pas normal. On va se reposer un peu. Et donc, on va se reposer un peu, on va essayer de pas trop lui donner de conseils. Elle sait déjà. Et c'est comme ça que les gens achètent leur paix, en fait, dans ces espaces. C'est comme ça que les personnes, par exemple, grosses dans un espace donné, vont acheter un petit peu de paix, quoi. Genre, oh non, mais je suis au régime. Oh non, mais... Il faut montrer, en fait, que quelque part, tu te détestes assez. Puisque c'est, en tant que personne grosse, tu peux pas montrer un amour de toi qui soit trop flamboyant ou trop brillant. Donc, quelque part, tu dois bien montrer que tu te détestes. Tu dois bien montrer que tu te contrains bien. Donc, ce livre, c'est vraiment l'histoire aussi de tous ces masques qu'on se doit d'adopter en société.
Oui, c'est ça. Et qui viennent, au final, pas bousculer l'ordre social dominant actuel.
Exactement.
Parce qu'à force de lire ces témoignages, ces portraits, en fait, je me disais, mais... Et sans, évidemment, aucun jugement, rien du tout, je me disais, mais... En fait, si toutes les personnes minorisées, oppressées, racisées, arrêtaient d'un coup, comme on pouvait imaginer, là, il y a eu le 8 mars, il n'y a pas longtemps, si toutes les femmes arrêtaient de travailler, mais en fait, les choses devraient bouger. C'est comme lorsque j'ai reçu Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre, qui me disait, si on mettait vraiment l'état des violences faites aux minorités de genre et aux femmes, mais ce serait illisible tellement c'est violent, en fait. On ne supporterait pas la violence que les hommes infligent, en fait, aux femmes. Et je me dis, à force de changer la narration, évidemment, c'est de l'autoprotection. Enfin, tu vois, hein. Et ça demanderait une énergie, un courage. Enfin, je n'ose imaginer ce que ça pourrait demander, mais de dire si à un moment donné, on arrête ces masques, on arrête, en fait, de jouer le jeu du système actuel. Est-ce que tu penses pas que il y aurait une sorte de blackout total, que le monde peut-être s'éteindrait complètement et que les blancs disparaîtraient et que les oppressions.
Non, en fait,
là je parle loin, mais
moi j'aimerais. Mais en fait, le truc, c'est que le système, en fait, il a un temps qu'on n'a pas. Le système, il a commencé avant moi, il va perdurer après moi. Et aussi, il faut pas se méprendre, en fait, sur les rappels à l'ordre du système. Le rappel à l'ordre, pour moi, qui est le plus spectaculaire en ce moment, c'est celui que subit Assa Traoré pour avoir posé une question. Qui a tué mon frère et pourquoi? Et parce qu'elle a dit qui a tué mon frère et pourquoi, ben, on a tous ses frères qui sont en prison. On a une répression étatique énorme sur cette seule famille, en fait. Donc, faire tomber le masque, en fait, pour une personne racisée, c'est jamais un acte anodin. Parce qu'on peut littéralement en crever. Et donc, mes stratégies, en fait, elles doivent avoir, en fait, quelque part, un horizon qui soit palpable. Est-ce que j'ai envie de faire la révolution? Oui. Est-ce que j'ai envie d'aller trouver chaque dirigeant d'entreprise avec une fourche? Absolument. Mais il ne faut pas que j'oublie aussi que, in fine, notre objectif, c'est de rester vivant.
Oui, c'est ça.
Donc, quelque part, je suis obligée, dans mes stratégies, parfois, de faire des compromis que j'ai pas envie de faire. Et le système est partout. C'est comme la pluie. Il pleut sur tout et tout le monde, en fait. Par exemple, des fois, on se dit, ah, bah, je vais aller voir la RH, ressources humaines. Mais les RH sont pas vos potes. Les RH sont là pour protéger l'entreprise. Et il y a aussi un énorme conflit d'intérêts. Je connais aucun RH qui dise à un salarié, viens, on va les faire tomber, toi et moi ensemble. Jamais. Ce serait génial. Mais c'était pas le cas. Donc, voilà, le fait de tomber le masque, le fait de se mettre en mouvement, dans ces stratégies que je mets en place, je suis obligée, en fait, de, d'anticiper, en fait, le rappel à l'ordre qui va suivre. Parce que ça ne se fait jamais calmement. Ça ne se passe jamais dans le calme. Et en fait, en tant que personne racisée, on a un choix, mais qui est un choix terrible quand même, parce que le silence a des conséquences, la riposte a des conséquences, et parfois, le seul choix qu'on a, c'est le choix des conséquences qu'on est prêt à supporter.
Mais oui. Mais là, tu vois, hein, comment... je te disais à quel point il était important que les personnes blanches le lisent. Mes inquiétudes, mes endroits de révolte, etc., ne vont pas aussi loin. Je trouve que c'est passionnant de se confronter à des choses comme ça qui te déplacent, qui te disent, mais tu vois, mon petit instinct de révolte, on va faire la révolution. Mais en fait, là, tu me parles de vie, quoi. Tu me parles de survie. C'est pas juste une révolte. Parce que même si je suis une femme, je suis loin d'être, en fait, ma vie n'est pas en danger au même endroit qu'en fait une personne racisée.
Et puis aussi, faut être très clair sur le fait que peut-être que ma définition de l'oppression, c'est pas la même que celle d'une personne blanche. Quand je vois que la dernière révolution, là, c'était pour les masques, bon. Et ça c'est pour me tuer quand je vois les gens qui se mobilisent juste pour pas mettre leur masque. Mais c'est pour me tuer, ça. Je me dis, ah, les gars, on a pas la même... bon... On n'est pas dans les mêmes enjeux.
Mais c'est
on n'est pas dans les mêmes enjeux.
Mais non.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un truc. Je dis, mais vraiment. Donc ça veut dire que quand je regarde les manifs, genre anti-masque, anti-vax, moi, je suis KO de rire parce que je me dis, mais vraiment, on n'a pas la même vie, les gars. On n'a absolument pas la même vie. Et les gens qui te parlent de liberté pour le port du masque, etc. Mais j'ai envie de dire, mais les gars, quand même. Doser un peu.
Mais oui.
Voilà.
Ouais. Mais ça, c'est l'exemple type, peut-être, d'un manque d'ouverture d'esprit. Enfin, même pas d'ouverture d'esprit, de connaissance, en fait. Est-ce qu'on peut y parler comme ça de personnes, en fait, qui ne voient pas de ce dont on parle, qui sont individualistes comme le capitalisme l'appelle, en fait, qui sont encore plus dans le système que peut-être ils imaginent, c'est-à-dire de quelque chose où en fait ils ont tellement été construits par ce système qu'ils ne voient même pas ce qui se passe en face, sans leur enlever la responsabilité. Enfin, je veux dire, il faut nuançable et doit être nuancé, c'est-à-dire que on veut aussi ne pas voir les choses.
Exactement.
Enfin, si on veut voir, on les voit, quoi.
L'invisibilisation, c'est aussi une organisation. C'est-à-dire que en fait, en vrai, en 2022, en vrai, on n'a pas besoin de ce livre. On a Google. On a toutes les ressources possibles et inimaginables sur le racisme. En vrai, on n'a pas besoin de ce livre. Faut dire les choses. On n'a pas besoin de ce livre. Ça veut dire que toutes les ressources sur le racisme sont présentes, documentées, accessibles. Vraiment. Et pourtant, on en est toujours au même point. Ça veut dire que la dissonance cognitive blanche est extrêmement puissante et extrêmement organisée. Et ce n'est pas une dissonance cognitive qui apparaît comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement construit. Et quand je dis dissonance cognitive, je la définis Enfin, je suis entièrement d'accord, par exemple, avec la définition qu'en fait Fanon. Fanon va dire, bah, la dissonance cognitive pour une personne, c'est de réfuter les arguments les plus logiques afin de protéger ses propres croyances. Et on le voit aussi, ça correspond complètement à l'époque que nous sommes en train de vivre et ces débats complètement stériles sur le wokisme. Mmh. Voilà. En France, on est arrivé à faire croire aux gens que le fait de se battre contre les discriminations, c'était pas bien. Imagine le niveau de... Oh là là, mon Dieu, elle lutte contre les discriminations, elle est woke, éliminons-la.
C'est ça, le diable.
Voilà. Donc, en fait, on en est là, en fait. On en est là. Il y a un discours, en fait, d'État qui va aussi découler aussi sur les personnes et qui va influencer les rapports interpersonnels. Le mot woke, il a fait son entrée dans le... devant les machines à café de toute la France, en fait. Qui est woke, qui ne l'est pas. Par exemple, le dernier... James Bond, il y avait une agente secrète qui était noire. Serait-ce James Bond woke? Vous voulez me tuer? Genre, il y a juste une personne noire qui apparaît à l'écran. Mmh. Attention, il va être woke.
Mmh. Est-ce que c'est une façon de décrédibiliser le débat, en fait?
Mais exactement.
Même pas le débat, les engagements, les luttes. Enfin, j'ai toujours l'impression que quand on nous sort des sortes de trucs comme ça, un peu comme d'un chapeau de carnaval ou de magicien, c'est juste pour déplacer l'endroit de lutte.
Exactement.
C'est dire, mais fatiguons-nous sur un terme. En attendant, le vrai truc, on le laisse passer. Et ils vont être trop sur leur terme pour... voilà. C'est des manigances, en fait.
Oui, c'est de la manipulation pure et simple de l'opinion publique. On veut faire croire que les luttes, en fait, sont quelque chose de complètement anachronique qui appartiendrait au passé et que puis aujourd'hui, on n'a plus vraiment, en fait, de raison de lutter et que, en fait, les personnes qui sont en lutte ou les personnes dont les luttes sont visibles ne seraient, en fait, que des professionnels... de la victimisation. Or, il n'y a pas plus fragile qu'un homme blanc de pouvoir. Mais ce sont les personnes qui sont en lutte qui se victimisent.
On va devoir finir notre conversation, notre super tête-à-tête. Je pense que ce qu'on peut inviter le monde entier à faire, et je parle bien du monde entier, s'il vous plaît, traduisez cet ouvrage, parce que même si, en effet, toutes les ressources sont trouvables, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur le terrain, c'est-à-dire que c'est des questions-réponses, c'est des méthodes claires. Est-ce que tu attends vraiment que les personnes t'appellent encore? Parce que tu leur as donné ton coaching, quoi.
Ben, parce qu'en fait, chaque situation, en fait, est différente. Et en fait, le truc, c'est que avec ce livre, en fait, je réponds à mon ambition première, qui est de diffuser ce message partout où il doit être entendu. Et je voulais, en fait, quelque part, que les personnes qui souffrent au travail aient cette espèce de... Moi, j'appelle ça le doudou violent, parce que c'est un doudou, ce livre.
Oui.
Il est rose, tout ça. Après, dès que tu l'ouvres, tac,
tac. Donc... C'est ça.
Mais quand tu le vois, il est rose, il est inoffensif, tout ça. Mais dès que tu l'ouvres, voilà. Mais le truc, c'était vraiment ça. C'était que les personnes, en fait, aient un espèce de livre de chevet comme ça, qui les fasse réfléchir, qui les fasse se questionner. Mais évidemment que la stratégie, c'est quelque chose de sur mesure. Et si je devais terminer là-dessus, si tu me le permets, pour moi, en fait, j'ai écrit « Survivre au taf », mais in fine, le but de ce livre, en fait, c'est d'accéder à plus que la survie, c'est-à-dire à la vie pleine, parce qu'on a le droit de vivre pleinement. Et aussi, ce livre, il est aussi profondément utopique. L'autodéfense pour les personnes racisées est une utopie, parce qu'on court après la personne qu'on aurait été si on n'était pas oppressé, quelque part. Voilà.
Merci beaucoup, Marie.
Merci.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Marie Da Silva à l'occasion de la parution de son ouvrage « Survivre au taf, stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées » aux éditions Daronne. La Franchie Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchie Podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart.
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.